Chapitre 10. Il y a dans les plus petites villes d'Italie un théâtre, de la musique, des improvisateurs, beaucoup d'enthousiasme pour la poésie et les arts, un beau soleil. Enfin, on y sent qu'on vit. Madame de Staël, Corinne. La nouveauté des terres et des figures épuisées, les couleurs devenues ordinaires, les tableaux affaiblis, il n'est plus impossible de chercher à comprendre Aden. Aden est un nœud qui boucle bien des cordes. Il ne fallait pas beaucoup de mois pour épuiser le pittoresque de cet Orient et saisir les forces qui tiraient les ficelles et serraient fort ce nœud. C'est une croisée de plusieurs chemins maritimes, ces chemins jalonnés de phares et d'îlots hérissés de canons, une des mailles de la longue chaîne qui maintient autour du monde les profits des marchands de la City. Relâche pleine de signaux meurtriers, pendant de Gibraltar. L'année était justement le temps où les dépôts de troupes de l'Europe prêtaient leurs soldats pour aider à la civilisation des Chinois. Économie mal ordonnée commence par les autres. Il y avait promesse de révolution du côté de l'embouchure divisée des fleuves du Kwangtung. Alors les navires passaient vers les terres hautes de l'Asie. Les transports de troupes, les destroyers à museaux de requins, s'ancrait en face du bâtiment gothique de la douane. Les hommes d'équipage prenaient le frais le soir sur la plateforme des porte-avions. À Aden, les bataillons sortaient de leurs casernes comme des guêpes d'un guépier. Le silence prenait ses quartiers au club du second régiment de Devon, que je voyais de ma fenêtre. Fini les band nights où l'orchestre jouait le God Save the King et la Marseillaise, qui allaient éveiller des échos dociles et ignobles dans le cœur des négociants en café et en pétrole. On lisait les dépêches de l'Eastern pour avoir des nouvelles de la Chine. Ces accessoires suffisent peut-être à indiquer la portée de la vie des hommes à Aden. Voici ce qu'il y avait à comprendre. Aden était une image fortement concentrée de notre mère l'Europe. C'était un comprimé d'Europe. Quelques centaines d'Européens ramassés dans un espace raccourci, comme un bagne. 5 000 de long, 3 000 de large. Reproduisait avec une extraordinaire précision les dessins que composent à une plus large échelle les lignes et les rapports de la vie dans les terres occidentales. Le Levant reproduit et commente le Ponant. On a sous les yeux une sorte de plan qui traduit fidèlement son modèle, comme les portulans de la Renaissance et les dessins symboliques que composent patiemment les moines des monastères bouddhistes. Tout est décanté jusqu'à l'essence, tout ce qui allongeait la solution évaporée. Il demeure un résidu impitoyable, descriptible et sec. Le petit nombre d'hommes engagés dans les courroies de transmission de cette machine encore complexe permet de saisir la signification de l'existence européenne, si souvent dissimulée par la multitude des acteurs et par l'entrecroisement de leurs trames. Comprendre les lois de cette machinerie, la source de sa force motrice, paraît réellement important à un jeune homme qui commence maladroitement avec un petit nombre de vagabondages sans portée, à entrevoir le but vers lequel il n'appartient qu'aux hommes de marché. Ces gens jouent leur rôle, au milieu de petits drames anecdotiques, qui représentent à la manière des pièces tombres les mouvements exemplaires de la vie des hommes civilisés. Ces rôles sont régis par des habitudes et des passions faiblement réveillées, par la vie, ce jeu si simple de coutumes tristement consenties. On voit déjà à cette place la justesse de la comparaison stoïcienne du théâtre, bien qu'il faille éclairer ces stoïciens magiques et profonds. Les habitudes d'Aden, comme ceux de Londres et de Paris, ce sont d'ailleurs les mêmes plantes, dans une serre où la température leur permet de grossir, paraissent, s'arrêtent, marchent, pleurent, disparaissent, sont éclipsées sans rime et sans raison. On n'aperçoit pas d'abord les prétextes des entrées et des sorties. Des sonneries derrière les portes, des entretiens. On devine simplement que des plans et des forces étrangères alimentent l'action et détiennent les clés de ces apparences mobiles. Elles se montrent donc au regard comme les grandes personnes remuent devant la critique des enfants. On assiste à leurs existences. Il est même facile de reproduire les gestes qu'elles font pour tenter de les comprendre. On saisit presque sur le champ qu'ils n'emporteront jamais un tel assentiment qu'il soit possible d'en attendre un seul atome de contentement ou de joie. Finalement, on pénètre ce spectacle abstrait où les figurants n'ont guère que deux dimensions. Cette pénétration n'offre pas de difficultés, bien que le sens du drame et la fable soient composés de tous les contresens à propos de la vie. Ces hommes étaient les pièces de rechange d'un mécanisme invisible qui ralentissait le dimanche à cause de la religion, et que grippaient parfois les accidents périodiques et violents des crises économiques. Tout cet amas boulonné, sans soupape, vibrait comme un édifice de tôle. Dans toutes les villes du monde, il y a des témoins qui attendent le jour où ils verront sauter le couvercle et éclater les volants. Groupés sous des raisons sociales, ils ne cessaient pas d'être en proie à la cérémonie guerrière du commerce international. Ils faisaient penser à des nègres qui dansent dans la nuit pleine des esprits et des reflets, jusqu'à tomber. C'étaient des victimes, comme Emmanuel Kant, de cette ordonnance horrible qu'est un emploi du temps. Ils ne l'avaient même pas, comme Kant, inventé. Kant avait au moins une porte de sortie. Personne ne l'empêchait d'en inventer un autre. Et 7 par semaine. 6 heures, lever, douche. 7 heures, premier déjeuner. 8 heures, bureau. Midi, second déjeuner. 1 heure, sieste. 2 heures, bureau. 5 heures, promenade, club. 7 heures et demie, dîner. 10 heures, sommeil. Cela ressemble au tableau d'instructions affiché dans les bureaux des colonels, des censeurs, des directeurs de prison. Comme cette partie de plaisir durait pour chacun d'eux 2 étés et 3 hivers, cherchez après le sommeil et le bureau, le loisir et l'heure d'être un homme. Ils n'avaient même pas le cinéma, le samedi soir. Ils couraient sous les coups d'un fouet qu'ils n'avaient jamais vu. On peut comprendre que la révolution a des raisons plus méthodiques, mais peu de raisons plus persuasives que celle-ci. Il faut des loisirs pour être un homme. Cette raison se trouve même dans Platon, ce conducteur d'esclaves. Chaque seconde du temps qu'il passait, qu'il les passait, subissait la pression du marché mondial. Partout les hommes la subissent et ne subissent qu'elle. Mais après tant de dérivations dans des canaux et des tuyauteries où sa force paraît se dissiper comme une vapeur, qu'il garde et communique l'illusion de l'indépendance, et même de l'autonomie. À Aden, cette pression était immédiatement présente. Elle se passait d'intermédiaire. Il faut comprendre que la vie était dégagée des faux ornements que lui ont ajoutés en Europe des siècles de civilisation morale décédée, des idées engendrées par le besoin des illusions et les nécessités hypocrites des luttes sociales. Comme ces gens comptaient revenir un jour dans leur pays natal, ils prenaient patience et réservaient l'usage des illusions pour la date de leur retour. Ils étaient sûrs qu'elles ne leur feraient pas défaut. Ils pensaient que le malheur de leur vie n'aurait qu'un temps. Les travailleurs arabes et somalis étaient encore trop dociles pour qu'il fût nécessaire de découvrir et d'inventer des raisons capables de justifier à tous les yeux leur exploitation méthodique. Ils gardaient ces raisons pour les ouvriers de l'Europe. Comme les illusions leur paraissaient inutiles, ils ne leur consacraient pas les quelques instants de répit que pouvaient leur laisser des journées si chargées. Il n'y avait pas d'autre presse que celle des dépêches d'agence. Personne n'avait le courage, ni le besoin, de lire les journaux européens qui s'entassaient sous bande dans les coins des chambres. Pas de théâtre, pas d'éditeur, de bibliothèque, si ce n'est les grammaires anglaises, les arithmétiques et les livres pieux des missions. Pas de discours, pas de philosophie, tout décor était oublié et provisoirement aboli. Pas de loisir pour la paresse, pas de loisir pour l'amour. Dans ce trou étouffé où il fallait bien vivre coude à coude, il y avait 580 habitants au 1000 carrés. On ne trouvait aucun des espaces solitaires où des amants sont assurés d'être méconnaissables. D'ailleurs, il y avait une femme pour 3 mâles. Pas de musique, ni de fête foraine. Quel blanc eût été admis à des frairies de Ramadan, à cet étrange carnaval hindou où les plus graves vieillards s'aspergent d'encre, où les portes austères sont ornées de symboles obscènes. Quand on essayait de parler des beaux-arts et de la question sociale, cela sonnait si faux et si vain que toutes les voix se taisaient. On sentait qu'il était inutile de prendre ces déguisements au sérieux. Ils paraissaient déplacés comme des obscénités à un repas d'évêque. La vie des hommes étant réduite à son état de pureté extrême, qui est à l'état économique, on ne courait jamais le risque d'être trompé par les miroirs déformants qui la réfléchissent en Europe. L'art, la philosophie, la politique étant absents faute d'emploi, il n'y avait aucune correction à faire. On voyait les fondations de la vie d'Occident. Les hommes étaient mis à nu comme des modèles anatomiques. Pour la première fois, je voyais des gens qui n'exigeaient pas, qui ne justifiaient pas une philosophie des vêtements. Aucune concession à l'amour de l'art, rien à chanter, rien à risquer, rien à peindre, pas de poèmes à lire et à écrire. Les seuls accidents sincères de leur journée étaient les dépêches de l'Eastern Telegraph Company. Agents anonymes, des puissances lâchées sur les marchés de l'Europe et des États-Unis. Tous les cœurs étaient suspendus à ces ondes électriques qui circulaient sous des tas de mer à une vitesse dont aucun actionnaire de la Shell ne cherchait à se représenter le taux. Ces hommes, qui ouvraient le dimanche matin les sacs du courrier, apportés par la malle des Indes, étaient ancrés là pour gagner plus d'argent que chez eux, dans les capitales de leur comté, dans leur préfecture française. C'est-à-dire, pour leur âge mûr et leur vieillesse, le pouvoir d'attendre la mort sans rien faire, sauf peut-être du jardinage ou du golf. Quels petits bourgeois, au fond, que ces dominateurs coloniaux. À 5 heures après-midi, comme ils vivaient à la cadence fixée par le soleil, ils sortaient de leurs abris et essayaient de s'imaginer qu'il y avait des rivières dans le monde. Toute la journée à Aden, il y a au centre du ciel blanc la présence du soleil. Les rochers éclatent. À la première défaillance d'attention, les hommes peuvent être foudroyés. Mais vers le bout de la journée, le soleil se dirige vers le sémaphore du Shamshan. Une sorte d'armistice est conclu, et une moitié des rues est délivrée. Les ombres s'allongent, comme des tiges dans le fond des ravins. Les ventilateurs font leur dernier tour, comme une hélice au moment de l'atterrissage. Ils abandonnaient alors le classeur où dorment les contrats, les copies de lettres, les codes, les connaissements. À Crater, sur l'esplanade, étaient assemblés autour du terrain de football les Arabes de la Dramout, du Yémen, les Hindous de toute caste, les Noirs de la côte africaine, mêlés aux fantassins de Sa Majesté. L'orchestre du régiment Punjabi jouait parfois. Les jours de sabbat, les jeunes juifs se déniaisaient, n'osant pas encore raser leurs papillotes, mais seulement porter les vestons clairs qu'ils revêtiraient définitivement un jour sur les trottoirs de la place Mehemehali, à l'entrée du Mouski, au Caire. Devant la chapelle presbytérienne, des artilleurs, quelques jeunes hindous, s'entraînaient au cricket. Les prêtres de la mission italienne passaient près d'eux, vêtus de leurs soutanes de toile blanche, chaussés de gros souliers noirs d'inspecteurs de la sûreté. Policiers des intentions morales, procureurs des confessionnaux. Les autos partaient vers les lieux arrosés, vers le jardin de l'oasis de Sheikh Othman, vers Fisherman's Bay, vers le club de Cold Mohur, où nageaient les femmes blanches de la colonie. De rares couples montaient vers le phare isolé de Ras Marchak. Les gens allaient voir dans les crevasses du volcan quelques arbres à fleurs de pommiers gonflés d'eau comme des choux, et le lendemain d'orages dérisoires, des prés de lys blanc. Ils montaient encore au-dessus des citernes voir un grand banyan exilé avec dans ses agrès des cargaisons de martinets aux pattes courtes qui y dormaient le soir. Les billards résonnaient dans les clubs, on buvait, on jouait aux cartes, au milieu des airs de danse à Steamer Point. C'étaient leurs maigres heures de suspens d'armes. Ils essayaient alors de faire quelque chose pour leur corps. Comme ils étaient pour la plupart anglais, ils savaient heureusement comment s'y prendre. Leur corps recevait 1 ou 2 heures d'existence. Mais non les corps italiens, les corps français, trop prudents pour se mouvoir. C'était aussi les heures où ils cédaient après tout aux illusions. Ils parlaient comme Monsieur C, de leur action. C'est un mot qui fait rêver tous les hommes. C'est la chose qu'ils n'ont pas. Ils essayaient de se faire croire qu'ils agissaient. Ils finissaient par le croire. Ils étaient donc poétiques. Être poétique, c'est avoir besoin d'illusions. Ils développaient cette illusion avec les ressources de l'intelligence, leur vieille servante maîtresse. Ils en faisaient la théorie. Mais ils ne trompaient pas. On sentait bien qu'ils n'aimaient pas leur vie. Ils avaient beau se forcer, l'amour ne venait pas. ils continuaient à vivre en pensant à ce qu'ils avaient fait, à ce qu'ils avaient à faire. Le temps passait. Ils tenaient debout à force de tics. Ils étaient bien dressés. Leurs parents pouvaient être fiers d'eux. Leur patron aussi. Ils n'avaient pas l'air humains. Ils ressemblaient plutôt à des sacs de son. Si on leur avait ouvert le ventre, c'était le seul service à leur rendre. De la poussière aurait coulé. Ils se vantaient pourtant d'avoir possédé des femmes, reçu des blessures de guerre. Impossible d'imaginer la sortie de ces liquides vivants, le sperme, le sang. Les objets de leur volonté n'existaient pas. C'étaient des essences abstraites, impossibles même à personnifier pour les faire entrer dans une prosopopée. Le bilan, la balance, le crédit, la circulation du capital, le succès commercial, le devoir professionnel. Couchez-vous avec le capital pour ami? Ces entités les occupaient, emplissaient les minutes, elles volaient tout le temps autour d'eux. Ils étaient abstraits. Ils exécutaient toutes les consignes qui ne concernent pas les hommes, comme les ordres secrets d'un vice dont ils ne pouvaient pas guérir. Ils disaient pourtant « la vie malgré tout ». Ils pensaient « vivons ». Premier cri du réveil, dernier soupir de la veille. Mais il aurait fallu pour que cela fût possible qu'ils guérissent de leurs mauvaises habitudes, de leur digestion, de leur respiration, de leur mariage, de leurs écritures, de leur langage, qu'ils fussent transformés depuis les fondations. Mais ces maniaques mouraient à petit feu au service de capitaux anonymes. Ce qu'il y avait de terrible, c'était de les voir dormir. Ils dormaient la nuit, et ils dormaient après leur repas, comme des serpents qui digèrent. Je les voyais sous les galeries de la maison endormis dans leur fauteuil cané. Ils reposaient enfin, arrivés dans un port accueillant, dans une rade sûre, dans le seul bonheur de la journée. Défaits, dénoués, la joue posée sur le sommet de l'épaule, le cou plissé, les mains à la traîne, avec des gouttes de sueur roulant sur le front. Traversés par des rêves visibles, leur face déballée parcourue par des ondes, dernière volute des lattes, de fond envoyé par les régions humaines, qui les soulevaient comme les insectes soulèvent les animaux morts dans les fossés. Ils bourdonnaient, se retournaient, ils essayaient de reparaître dans le jour avec les trouvailles du sommeil, de ne pas les oublier. Mais ils les laissaient tomber. Ils revenaient les mains vides, plus tristes que les femmes qui accouchent d'un enfant mort. Le sommeil est pour un vivant le désintéressement le plus semblable à celui de la mort. Il était pour eux la pointe même de l'attention, l'extrême de leur effort, tout ce qu'ils pouvaient connaître des réclamations de l'homme. Que de fois j'aurais répété le mot « homme ». Mais qu'on m'en donne un autre, c'est de celui-ci qu'il s'agit. Énoncer ce qui est et ce qui n'est pas dans le mot « homme ». Que faire de ces êtres de verre où l'on voit passer jusqu'aux songeries? Ce sont les fous de cristal d'Edgar Poe. Mais du verre, cela se brise. Ils sont encore comme les poissons transparents des grands fonds. Mais des poissons, cela se pêche. Parce qu'ils sont nombreux et collés les uns sur les autres, on commence par les croire impénétrables. Beaucoup de transparence fait de l'ombre. C'est la description du mica. Il suffit de trouver les plans de clivage. Chaque lamelle, chaque homme séparé, sont alors transparents. On m'a toujours laissé croire que les hommes avaient de l'épaisseur. Je trouve qu'il y a quelque chose qui les empêche d'être opaques, comme des vrais hommes, comme ceux dont on parle, par exemple dans l'histoire, dans la poésie. L'homme ne sera-t-il donc jamais qu'un personnage historique? Chapitre 11. Quand on veut changer d'air, on peut se diriger vers l'Areb, dans les terres, ou vers Djibouti. Si l'on va du côté de la Reb, c'est pour voir de l'herbe. Les autos marchent en tanguant dans le désert. Elles se lancent de loin pour franchir des collines de sable qui les saisissent comme des ventouses. Des Arabes dans les haltes donnent des feuilles à leurs chameaux agenouillés. On passe près d'une colline de tessons qui passe pour témoigner du passage d'Albuquerque. C'était en 1519. Au bout de quelques heures, des arbres se lèvent. On arrive en vue de la Reb, ville de poussière. avec des maisons de poussière, des palmiers de poussière, des hommes de poussière. Le palais du sultan est un bâtiment de corail gris. Il a un toit à balustres, des files de fenêtres, des attiques, des colonnes corinthiennes. Dans le jardin, des paquets de feuilles de tabac sèchent sur des ficelles. Il y a des boules de verre dépolies pour y lire l'avenir, comme dans la grande banlieue près de Paris. On entre. En haut d'un escalier nu, un grand arabe en veston de soie rayée, rouge et jaune, vous prie d'attendre dans la salle d'audience. C'est un grand salon dans la pénombre. Les volets sont fermés contre le soleil. Au mur pendent les photographies couleur et grandeur naturelle du père et de l'oncle du sultan régnant. Les tapis qui viennent de Paris sont roulés et ficelés dans un coin, comme si le sultan était au bord de la mer, ou donnait le soir même une sauterie en l'honneur des 18 ans de son fils, qui a des lunettes d'acier et des boutons comme un élève de l'école normale de Saint-Cloud. On boit du café poivré dans ces tasses de fauchine que des Arméniens, des Syriens, vendent aux esclaves sur le pont des paquebots d'Extrême-Orient. On est assis sur des canapés recouverts de velours Napoléon III, sur le bord par respect. C'est un prince régnant. Arrive ce dernier, grand homme noir, l'air rusé et cruel des nervis du vieux port à Marseille. La conversation ne compromet rien. Il ne vous dira pas ce qu'il pense des Wahhabites et de l'imam de Sana. Finalement, on est autorisé à circuler librement sur le territoire de Sir Abdul Karim, Knight Commander of the Bath, qui se retire. Alors on va voir l'herbe. La route, parallèle au petit chemin de fer de la Reb à Aden, est bordée de muraux de pierre recouverts de mottes sèches, comme dans le Morbihan. On entre dans une région pleine de dattiers, de goyaviers, de papayers, d'orangers, de grenadiers. On traverse des champs de bananiers de Chine, haut comme des enfants de 15 ans. Le sol est un feutre humide, fait de plantes crasses. Autour des champs circulent des canaux, entre des berges surélevées comme dans le delta du Nil. L'eau y coule. Dans le fond du tableau, on revoit agrandies les montagnes du Yémen. Soudain, au fond d'un ravin rouge plus large que le Val de Loire, coule le fil d'un fleuve à moitié mort. Quelle joie! Voilà des prairies, avec de l'herbe bourguignonne, des champs aux couleurs piémontaises. Les plus compassés s'étendent sur les graminées, presque tremblant de voir auprès, après des semaines de pierre, des paysans, de l'eau douce qu'on écluse, comme dans les géorgiques. Ils se penchent sur le disque d'un puits. Malheureusement, quelques-uns retournent du pied le cadavre blanc d'un serpent, pendant le déjeuner au milieu des citronniers. Des aigles tombent du ciel, comme des pierres, et dérobent les os qu'on lance aux chiens dont la mâchoire ne mord que le vent, et une plume perdue. Ce n'est pas l'Occident aux campagnes pacifiques, Toscane, Touraine ou Kent. Sur les chemins, on croise des bandes de travailleurs qui reviennent du champ. Nus, ils portent seulement une fouta, serrée par une ceinture de cuir brodée où pend un couteau recourbé dans une gaine d'argent. Un gros fil noir est entouré à leurs chevilles. Un lépreux assis au bord de la voie écarte les mouches du soir avec un geste doucereux de machine. Impossible de voir des hommes plus en ruine que les sujets du sultan. Les ouvriers que j'ai vus sortir des mines de bauxite sur la route d'Aix-en-Provence, couverts de terre rouge, respiraient la force et la joie auprès d'eux. 20 000 êtres mènent cette vie de purgatoire pour que ce marquis de Carabas, indigène, puisse regarder ses prés verdir à l'ombre des avions militaires anglais, puisse se regarder en paix dans ses boules de verre et voyager au Caire, à Londres et à Paris. En allant vers la Reb, on pensait à l'herbe, aux femmes qu'on voudrait renverser sur elle après plusieurs mois de chasteté. Mais voici qu'il faut demander à l'herbe les mêmes comptes qu'aux cheminées d'usine de Saint-Ouen. Orient, sous tes arbres à palmes des poésies, je ne trouve encore qu'une autre souffrance des hommes. Un autre jour, je pars pour Djibouti sur le bateau à moteur halal. Le halal est un vieux rouleur de mer rouge dans les 400 tonneaux, alourdi par ses mâts de charge, avec une cheminée maigre à l'arrière. Le capitaine MacLean le laisse marcher tout seul. Ce n'est pas un de ces bateaux à caprice qu'il faut surveiller pendant tout l'écart. Il file tout seul vers la côte des Somalies, comme ces chevaux de maraîchers qui conduisent vers les halles leurs maîtres endormis sur les choux. MacLean dort. Raconte des histoires de femmes, boit un coup à toutes les calebasses qui pendent aux agrès autour de sa cabine. À une heure toujours fixe, il change de costume blanc, met un casque et des souliers propres. Le halal arrive en vue de Djibouti. On voit au fond de la baie de Tadjoura la côte basse de Madrépore. On aperçoit au fond du pays, comme sur un tableau de Vinci, les étages bleus de montagne couronnés de nuages, le commencement de l'Abyssinie. Le navire sur ses ancres, les allèges emplis de balles de cuir arrivent, montés par des Soumalis brillants et crieurs. Ils se mettent à danser autour de la coque un ballet déréglé et sans poids. Ils plongent tout nus, attrapent un bout de corde entre les dents, grimpent par la chaîne de l'ancre, laissent sur le pont la trace mouillée de leurs longs pieds. McLean marche déjà sur le môle, échange ses connaissements avec le directeur du comptoir et file vers les filles et les cafés. Djibouti n'a aucun passé. C'est une sous-préfecture du Midi qui date de 40 ans. Cet âge a suffi pour que le lavis rose des maisons commence à s'écailler, pour que des arbres se mettent à avoir l'air d'arbres dans le jardin du gouverneur. Même vie qu'à Aden, ornée du débraillé des coups de gueule de l'Europe du Sud, grecque, française, italienne. À Aden, il y a des clubs fermés. On ne peut jamais voir par les fenêtres ce qui s'y passe. À Djibouti, il y a des cafés, la belote détrône le bridge, les hommes parlent des femmes. Quelle surprise pour un Français d'y retrouver les détails qui font que la France est la France et portent sur le même corps d'autres vêtements que l'Angleterre. Je suis chez moi, place Ménélik, assis à une terrasse de café dans le style de Montélimar, d'Avignon, devant une station de fiacre avec des tentes à franges, comme à Périgueux. Chez moi, en voyant à la porte du commissariat de police le commissaire insulter un indigène de sa voix d'ancien adjudant de colonial, chez moi, au tennis, en parlant du président du tribunal, qui porte une barbe radicale socialiste, un ventre du sud de la Garonne, à sa femme taillée sur le modèle dont sont faites dans la métropole les femmes de colonel et les matrones de la rue Paradis. Chez moi, devant la poste, me demandant comment le directeur a si vite une auto. Chez moi, sur le plateau du Serpent, en voyant les jeunes filles se promener avec un bandeau autour des cheveux, comme à Quiberon, en apprenant de qui la femme du directeur des chemins de fer est la maîtresse. Chez moi, enfin, en découvrant dans la boutique d'un épicier grec, sous des piles de boîtes de thon de chez Amieux, le texte grec de « Prométhée enchaîné » d'Œdipe à Colonne. Le même ennui sans forme qu'à Aden, mais en manches de chemise retenues par les élastiques, des coiffeurs, mais avec le goût des vermouths cassis, des mandarins curacao. Tous ces hommes aussi tournent en rond, heurtés aux murs invisibles de leur destin, faisant aux mêmes heures les mêmes mouvements que les Anglais de la côte d'Asie, filant en auto le soir vers le jardin des cèdres en Bouli, où vont se consoler des couples dont les membres sont toujours des pièces de rechange. C'est la nuit. On tient une femme sans nom contre soi, les maigres arbustes de la steppe défilent, les chameaux leur broutent la cime, comme ces arbustes ont des formes et des proportions d'arbres faits, on se croirait dans un paysage préhistorique. Les chameaux grands comme des iguanodos. Comme les Français ont l'habitude de parler de l'amour, bien qu'ils n'y soient pas plus soumis que les Saxons, Djibouti possède un quartier réservé. Dans le village indigène d'où les Somalis ont défense de sortir après 10 heures du soir, à moins qu'ils ne possèdent un laissez-passer, s'ouvrent des rues pareilles aux autres, avec les pauvres huttes de roseaux qu'emporte la moindre crue de la rivière, les tas d'arêtes de poissons. Elles débordent de l'odeur de la graisse rance, de moutons mêlés à des parfums. On arrive au bout de ces voies. Le moteur au ralenti ouvre dans le silence qui écoute de toutes ses oreilles une source d'orage. De toutes les portes, les filles sortent en courant, comme des folles délivrées des charmes qui les retenaient dans le noir. Elles sautent devant le radiateur, en se tenant les mains. Elles crient de leur voix aiguë de chanteuse. Elles s'appellent. Ce sont de grandes filles très jeunes, couvertes de gros bijoux. Leur peau ointre luait faiblement à la lueur des phares et aux reflets rouges de leur cabane. Des mains se posent comme une patte d'animal sur votre cou. Il faut partir, ou se laisser prendre. Se plonger dans les vagues d'un amour enfoncé dans l'étuve de la nuit. Ces descentes sont la dernière ressource des hommes perdus. Si vous allez dans un pays noir, renoncerez-vous jamais au souvenir de ces petites filles admirables? Mais cette perdition vaut mieux que vos sales habitudes vertueuses, gens de l'Europe, où feriez aussi bien d'être toxicomane ou d'être débauché. Enfin, quand il est temps de revenir au bureau d'Aden, on pense que ce n'était vraiment pas la peine de les quitter. Chapitre 12. Bien que tous les habitants d'Aden fussent écrasés de besogne, il n'y avait absolument rien à faire. C'est la phrase la moins favorable aux hommes, le jugement qui avoue leur condamnation, leur état de perpétuelle absence. Pas une miette de réalité, pas une démarche qui pût aboutir à quelque chose. Un ennui inefficace parmi les compagnons habitués par le temps à tout ce qui n'existe pas. Des ombres engendrées par toutes sortes de faim. Dans les familles où l'on manque de pain, il y a aussi des hallucinations. Alors, faire bon ménage avec l'ennui, mourir de cette mort, il n'y a pas d'autre choix. Comme on ne veut pas encore mourir, on croirait offenser quelqu'un et les plus secrets avertissements de la vie, on tombe dans l'ennui. On s'installe parmi ces animaux savants qui n'ont plus qu'à s'aimer avec une ardeur hypocrite, qui se trompent vraiment d'adresse. C'est le moment de la descente dans la Nekouya. Il faut bien passer par toutes les étapes d'Ulysse, qu'on doive revenir, ou non, dans l'Ithaque natale. Il y a pour tous les hommes une région des pensées vaines, des idées qui n'en sont pas, des vivants qui sont des morts. Lorsque tout ce qui est au monde paraît interdit, la vie intérieure arrive. On n'attendait plus qu'elle. On convoque ses propres ombres qui rabâchent et prophétisent. Je tombe à la contagion. Il y a des microbes de tous les vices. Ce n'est pas assez d'avoir saisi l'essence et les ressorts d'une vie inhumaine pour être protégé contre les maux qu'elle donne. Je vis comme une ombre, parmi les autres ombres. Tout passe avec des pas de coton, au milieu des pierres de la fièvre. Rien qui se passe, rien qui presse. J'oublie que j'ai su m'apercevoir du temps. Si l'on sent qu'il y a un écoulement du temps, c'est qu'on vit mal, mais qu'on vit. Quand on vit bien, il ne s'écoule pas. Il est possédé. Mais il y a un intérêt du temps. Je ne pense plus à lui. Personne ne peut prévoir le jour où il se remettra en mouvement. Parler ? Il faut avoir à qui parler, et de quoi dire. Je pense que je suis le siège d'extraordinaires avertissements de ce qui est pour le regard émoussé d'un vivant le plus grand ennui. La mort. Je ne suis pas plus fort que les autres. Je n'arrive pas à comprendre le néant. Mon propre néant fume dur. Mon néant, bien que le néant jure avec l'idée de sa possession. Je me vois donc mort, mais incomplètement. Je me représente une existence dégradée. Allons, je n'ai pas fait beaucoup de progrès depuis Achille. Enfin, je prends cet état pour un avertissement continu de ma mort. Je trouve cet état horrible. La mort me dégoûte, si elle est vraiment cela, si elle est moins la négation de tout ce qui va venir qu'une disposition encore humaine, comme la maladie, le froid, la douleur physique. Je me sens mort. L'indifférence est mûre. Je ne peux pas appeler ces semaines que je vis autrement que mort. C'est tout ce qu'un vivant peut penser, quand il veut approcher d'aussi près qu'il le peut de la signification du néant. La véritable mort est ce qu'elle est. Ce que la vie n'est pas, ce qu'est l'état d'un homme quand il ne pense rien, quand il ne se pense pas, quand il ne pense pas que les autres le pensent. Je n'en suis pas là. Au fond, rien n'est perdu. Mais mon illusion est effrayante. Je fais le pharo au commencement. Je me disais, je suis réconcilié avec mon corps, je suis refondu au milieu de cette plénitude des gestes qui me sont permis dans la solitude. Mais un corps même peut perdre son temps. Il peut gâcher les chances qu'il a d'être uni à tout l'ensemble des idées. Il faut qu'il ait des objets pour compagnon, sinon il n'a rien à faire. Il est tout seul. Il ne sait plus que faire de ses grands muscles. Il laisse l'esprit en faillite. Quand il a oublié le souffle des maigres vents parisiens, le renversement matinal de la brise de mer, la contexture de la gelée, les plantations de sel et de cristaux qui protègent les vitres, les prés et les rivières, les bouts du monde dont il avait l'habitude, il est désœuvré. À Aden, mon corps a encore moins à faire qu'à Paris. Il ne trouve rien. Posé sur des sables gris, des ponces volcaniques, en face de criques ouvertes, comme au commencement du monde, fréquentées par les raies, les requins, les poissons arc-en-ciel. Cette mer baigne les rivages décharnés, les squelettes de ces êtres que l'Occident appelle collines, promontoires, vallées. Qu'est-ce que le corps peut faire de cet amas éclatant de minéraux cassés, et la nuit venue, de la compagnie de Betelgeuse, de la Croix du Sud à des millions d'années-lumière. Lorsqu'il ne reste plus des éléments de l'univers mystérieusement décantés que des vapeurs décolorées, une lie de marée et de pierre, je découvre que mon corps est perdu. Je ne peux même pas me servir de lui, à défaut de l'amour et des actions humaines. Alors, la pensée se met à ruminer le passé, l'avenir, les pouvoirs inconnus qui sont peut-être les siens, ce qui est désormais impossible mais qui aurait pu être, ce qui ne fut pas, ce qui est encore en sa puissance. Cette vie selon les choses possibles est la récolte de l'ennui. C'est une existence où n'ont lieu aucune opération, aucune pensée réelle de la faculté de penser. Une pensée, c'est ce qui est actuel. Dans l'actualité sont réunies une présence immédiate et quelques activités. Une pensée comporte des objets qui sont placés à un certain moment, en un certain lieu. Elle dirige toutes ses ressources vers eux et les met en œuvre en leur honneur. Une pensée a envie de quelque chose. Elle veut une fin. Quand je vais me promener sur les pentes du volcan, je suis tout seul. Je suis malheureux comme les pierres. Je passe devant les grottes de lave pleines de chauves-souris. Je marche sur des pistes bordées de pierres peintes en blanc. Au fond des ravins, où poussent des épines et des ruses empoisonnées, dans leur nid, de grands vautours infatigables me regardent passer. La nuit arrive, comme un nuage, ou comme un oiseau. Au sommet du Djebel Shamshan, le soleil descend au milieu d'une solitude de glace. C'est l'heure où l'on peut ramasser sans se brûler les doigts, les morceaux de lave, les pierres plates où des jeux de cristaux imitent des fougères fossiles. Je suis perdu. Je veux retrouver les hommes qui ne m'attendent pas sous les lumières d'Aden, qui ne sont pas là. Le cratère est une grande urne, où la nuit s'entasse et accumule les ingrédients mystérieux de ses opérations magiques. Les pavillons du sémaphore échangent leurs derniers signaux avec les navires qui surgissent encore du côté de Little Aden, que les marins appellent les oreilles d'âne. L'ombre froide comme du mercure est pleine de faces invisibles, de conventions secrètes, de drogues destinées à la magie sympathique. Elle bat comme un cœur. Je ne suis pas sauvé du jour sans pitié. Je n'ose rien espérer dans cette nuit qui est d'une étendue énorme autour du volcan refroidi par elle, mortel, circonscrit par les images de la lune dans la mer. Je veux à peine penser à la figure actuelle de la vie qui me mène. Elle ne comprend la présence d'aucun objet matériel ou humain. Un objet de pensée est aussi bien l'amour d'une femme qu'un arbre. Tout est absence. Montrez-moi mes outils, mes animaux, mes besoins, mes hommes, des champs, des armes. J'aurais seulement un champ, tout serait arrangé. Ou encore, un métier réel entre les mains. J'ai des objets qui sont mes esclaves, ces choses vidées des vieilles habitudes, celles qui ne veulent pas d'invention ou de joie. Des meubles, des porte-plumes, des taxis, des dents, des lunettes, des habits, des mains, des portes. Il faut faire quelque chose pour les objets. Quelle source de désespoir et d'ennui dans les objets que nous ne connaissons que trop bien. Ils jouent dans les existences humaines un rôle aussi important que les hommes. Penser à eux est une charité bien ordonnée. Il arrive à tout le monde de rencontrer sans aucune préméditation des apparitions singulières. À Bourg-la-Reine, j'ai vu dans une bonbonne un melon qui avait grandi là, plus merveilleux que les quatre mâts mis en bouteille par les retraités de la marine sur les remparts de Belle-Île-en-Mer. Des opticiens égarés dans le siècle ornent leurs vitrines de verre, d'écailles de métal, de signes plus vains que les lentilles poétiques qui répandent une lumière propice à toutes les métaphores sur les trottoirs des pharmacies. Ce sont des crânes blancs aussi purs que des sphères célestes, atlas démodés de l'esprit qui portent sur le front, pour tatouage, le nom « phrénologie ». L'imagination des photographes décore les cuisses des modèles de dentelles noires et de jarretières ornées de figurines, de devises, d'attributs qui aiguillent tous les cœurs vers les régions les moins habitables de l'amour, aussi bien que les cœurs transpercés de la Vierge des douleurs et les fleurs de Sainte Thérèse de Lisieux. Ces îlots délivrés ont perdu toute communication avec les quantités incalculables de matière façonnées à toutes fins utiles. Plus de ponts, plus de manettes. Évadés du cercle où s'agite l'esclavage des récipients, des instruments, ils ne sauraient servir aux usages consacrés par la sagesse des nations. Leur laideur, leur pauvreté, n'empêchent pas de les rencontrer pour les membres d'un monde où les objets et leurs maîtres vivent en liberté. Le fait qu'ils sont conçus par des fonctionnaires retraités n'interdit pas de les identifier aux dessins de Léonard de Vinci et aux poèmes de Rimbaud, détournés de leur destin jusqu'à tomber au rang d'un canon ou d'un drapeau. Ils permettent d'entrer dans l'univers où les choses n'exigent pas d'instruction spéciale sur le mode d'emploi, où les actions correspondantes n'entraînent aucun apprentissage, aucun dégoût, aucune mesure prophylactique, aucune sanction. Malheureusement, à 12 ans, les hommes connaissent par cœur tout ce qui les suivra. Il s'agit de chercher les objets qui n'obligent pas à des dressages, à des actions étalonnées dans les bureaux des poids et mesures. Il faut tout espérer d'une vie où l'invention, la nouveauté des objets capables d'éveiller tout ce qui n'a jamais servi, composerait un mélange plus joyeux que tous ceux de Platon. Toutes les ressources de l'homme, de son corps, de ses instincts, de ses beaux-arts seraient utilisées. On s'apercevrait de l'existence, de l'humanité. En attendant, vivons dans notre pauvreté, sous les coutumes des objets, les manies de nos frères. Personne n'est content. Pourtant, nos frères peuvent être les plus naïfs et les plus multiples de nos choses. À Aden, ce désœuvrement est terrible. On est privé de tout, même des semblants de l'art, de la philosophie. Alors, c'est la frivolité du passé, les poussières d'un avenir formé des habitudes et des systèmes, la folie qui combine les éléments de la pauvreté, celle qui ne comporte pas de melons en bouteille, de saisons en enfer, de femmes sans famille. Jeu d'échecs où le vivant perd les parties au bénéfice des morts. Le pressentiment obscur que le nombre de ces combinaisons indigentes est malgré tout infini conduit à ce que l'on ne saurait nommer que désespoir. Toutes les légendes du vide sont d'ailleurs la vie conforme à l'intelligence et à l'ancienne philosophie. La vie intérieure est intelligente. Le désespoir se flatte quelquefois d'une subtilité dérisoire. L'intelligence est une vieille maniaque qui triture les déchets, fabrique des nouveautés avec les ordures des états détruits. Elle arrange des parties égales, sans aucune hiérarchie de portée, de proportion ni d'attrait. Le fait qu'elle les contemple d'une manière toujours identique à elle-même les réduit à cette égalité. Elle a 2 devises. A est égal à B, cela m'est égal. La vérité sort de la bouche des calembours. Elle s'occupe quand son maître ne trouve rien à faire, parce qu'il lui faut toujours marcher et parler toute seule. Quelle vie! Ce maître la regarde marcher comme un paralytique, voit sauter et trembler son bras. Il n'y a aucune raison pour que cela finisse. Le maître ne veut rien, alors il ne rencontre jamais un objet dont l'intelligence lui dise qu'il est réellement important et capable de repousser tous les autres. Pour elle, la rencontre de telle ou telle pensée est indifférente. Elle est trop pure pour indiquer un choix. Elle est un miroir qui ne préfère aucune des images qu'il porte, le lieu de toutes les pensées possibles. Elle se moque de tout. Elle se plaît aussi bien aux opérations de l'analyse qu'aux figures de tous les mondes possibles, qu'aux vies possibles pour un homme. Toutes les sortes d'algèbres sont le seul rêve qu'elle supporte. L'algèbre de Leibniz énonce toutes les recettes de la vie intérieure, tout ce qui justifie les dégradations de la vie extérieure. Avec ses pauvres signaux, elle ne propose rien, elle n'a goût à rien. Elle envahit tout l'être, et l'homme rongé par elle conclut finalement de l'échec nécessaire de la raison à la défaite universelle des hommes. Cette généralisation est la dernière limite de la raison, et son opération la plus parfaite. Il ne reste plus qu'à continuer, à penser d'une nouvelle façon à la mort. Quand toutes les apparences de la vie ne semblent comporter aucune raison de choisir, quelques-uns inventent des descriptions réconfortantes de la mort. Au-delà de cette ligne de partage des eaux, ils s'efforcent à deviner des réserves d'événements que l'intelligence renonce à comprendre et l'imagination à pressentir. Cédant aux illusions fatales de l'ennui, ils finissent par admettre une nouvelle sorte de vie composée du jeu des parties les moins connues de l'univers et des métamorphoses dont serait capable l'intelligence, enfin délivrée de ce corps qu'elle regarde comme un chien dans un jeu de quilles. Une vie où l'exercice total de l'intelligence ne serait plus borné par les exigences et l'ennui du corps qui aime la vie de la chair et de la présence du monde. Plus loin encore, il leur arrive de penser aux anges. En 6 mois, je passe par ces étapes mortelles. Heureusement, mon corps désœuvré, mes instincts, ne s'accommodent pas des calculs, de l'art pour l'art. Je hais cette vie. Je commence à désirer un état humain, qui soit complètement le contraire de l'abstraction irrespirable. Je m'efforce de me peindre des hommes libres, voulant être réellement, et non en songe comme des chrétiens et des banquiers, tout ce qu'il est donné à l'homme d'être. Je vois tous les jours la puérilité de la peur qui nous possédait à Paris, les actions qu'on nous proposait conformément au rang de nos familles, à la civilité puérile et honnête, aux fonctions abstraites du monde bourgeois, étaient tellement absurdes et vaines que nous pensions que toutes les actions sont éternellement stériles, comme les bonnes sœurs qui boivent de la tisane pour faire couler leur sein, que la nuit noire est l'unique décor où meurent les hommes. Nous avions dans notre sommeil des rêves qui auraient dû nous détromper, mais nous voyions nos maîtres assez puissants pour interdire aux rêves de faire leur entrée au grand jour. De là des évasions qui paraissaient fatales. Nous ne nous apercevions pas que tout le monde était bien content de nous voir partir, que tout le monde nous y encourageait. Tous ces donneurs de conseils rateront leur mauvais coup de bien peu. Qui donc ne donnait pas de louanges aux diverses incarnations de la retraite, à la profondeur, à la confession, à l'introspection, à certaines poésies, aux jeux de billard, aux religions, au cinéma, aux romans d'aventure, aux journaux policiers, aux raids d'aviation. On plaçait haut dans la civilisation les romanciers des aventures intérieures, les psychologues de la conversation. On félicitait les jeunes gens et les petits employés de se faire des vies imaginaires. Cela s'appelait par exemple le temps retrouvé. On suggérait que le bouddhisme même est charmant. Pendant ce temps-là, nos maîtres étaient bien tranquilles. Quand vous pensez à retrouver le temps perdu, vous ne mettez rien en danger. Fuir signifiait qu'on renonçait à regarder de près le monde qu'on fuyait, qu'on renonçait à demander des comptes le jour où on aurait compris. Allez jouer et laissez les grandes personnes tranquilles. Il y avait un plan merveilleusement établi pour faire oublier les maux présents et leurs remèdes. Toute recherche présente met en péril l'ordre. Vous vous croyez innocent si vous dites « J'aime cette femme et je veux conformer mes actes à cet amour ». Mais vous commencez la révolution. D'ailleurs, votre amour ne réussira pas. Quel péché si vous réclamez la liberté et si vous annoncez que vous voulez faire quelque chose pour elle. Vous serez rejeté. Revendiquer un acte humain, c'est attaquer les forces maîtresses de tous les malheurs.
Ces réclamations présentes sont simples. Le jour où je me suis mis à y penser, je me prenais pour Colombe, pour Newton. Elles sont d'ailleurs plus importantes que l'histoire de l'œuf et le calcul des fluxions, car elles prophétisent la ruine du monde. Si quelqu'un va sur une place de Paris déclarer qu'il faut que les hommes vivent comme des humains, qu'ils ont le droit depuis le temps de faire comme les plantes qui vivent comme des plantes, il sera couvert sous des tas noirs de policiers. Elles sont simples, puisqu'il suffit de renvoyer les fables à ceux qui les inventent et de laisser prospérer les puissances qui ne demandent qu'à exister sans fournir toutes les 5 minutes des justifications dialectiques. Va-t-il falloir me contenter d'imaginer seulement la vie humaine de mon lit, lors du temps, retomber dans les farces intérieures? Qu'on ne me demande pas comment elle est faite, ni à quoi elle ressemble. Je ne l'ai pas accomplie, je tâtonne. C'est comme lorsque l'on veut attraper le soir à la campagne un pigeon qui vole dans le colombier. Mais je sais qu'elle est là, qu'il faut écarter ses voiles. Le désert de pierre et des pensées s'effacent. J'annonce qu'il y a, malgré les faux prophètes, des objets et des actes aussi naturels que les chevaux, qui sont situés dans des temps et dans des lieux accessibles aux mouvements humains. Les plus grandes ruses de ce que vous appelez votre âme ne sauraient même pas les imiter. Ils rejettent au fou que vous êtes ce qui n'est que possible. Il va falloir, par exemple, manier les outils, s'occuper des vivants, annuler les morts, connaître enfin nos corps, tuer nos ennemis, inventer des objets, faire marcher des enfants, rire, apprendre le monde. L'action met en avant de bien d'autres complices que tous vos algèbres, des pouvoirs, des besoins, des possessions. Tout doit viser à la conciliation de ces complices naturels dont vous essayez d'étouffer les voies avec beaucoup de ruses et de savantes précautions, sous toutes les tentures de la bonne logique et de la sainte morale des affaires. Ils sont plus faciles à aimer que vos récits de bourgeois et de traite ne l'ont laissé entendre. Ils sont si près de nous que les langues ne savent pas les nommer. Ils n'ont pas encore intéressé les relations humaines. Avais-je besoin d'aller déterrer des vérités si ordinaires dans les déserts tropicaux et chercher à Aden les secrets de Paris? Je vis en rentrant que bien d'autres les avaient vus passer dans le cœur de la Seine. Je ne regrette rien. Elles crevaient les yeux. Elles se manifestaient dans une lumière si éclatante que je suis assurée de ne jamais les perdre. Je fus trop proche de ma fin pour les regarder comme des erreurs de jeunesse. Personne ne me fera croire que la croissance explique tout. Les chances que j'avais de les rencontrer dans les murs du 5e arrondissement me paraissent encore maigres. On s'apprêtait à jeter sur moi tant de couvertures. J'aurais pu être un traître. J'aurais pu étouffer.